Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre émission. On refait le match où il sera question de trois thèmes principaux. D'un Marseille qui brûle en coulisses. Nous évoquerons le départ, bien sûr, d'Anthony Zubizarreta, le directeur sportif. Celui possible, voire probable, de l'entraîneur Villas-Boas, même si l'actionnaire Franck McCourt veut le retenir absolument. C'est ce qu'il vient de dire à l'AFP. Et puis l'info RTL donnée en fin de matinée par Christian Olivier, le chef du service des sports d'RTL, selon laquelle Steve Mandanda et l'un de ses coéquipiers étrangers auraient refusé de poser pour la photo du club. Avec le nouveau maillot de l'OM, de fissure en fêlure, la maison Marseille est tout près de la cassure. Nous parlerons également d'Adrien Rabiot de retour à la Juve, mais une Juve qui veut s'en séparer. Et nous aurons le plaisir tout d'abord d'accueillir dans quelques secondes notre invité, le président de Montpellier, Laurent Nicolin. Nous sommes également avec Philippe Sansfourche, Eric Silvestro d'RTL. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et tout à l'heure, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en français, David Aiello, nous rejoindront à 19h. Nous aurons également les échos des auditeurs sur les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux. A tout de suite sur RTL jusqu'à 20h.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Philippe Sansfourche, Eric Silvestro d'RTL et puis Dominique Sévrac d'Aujourd'hui en France, le Parisien et David Aiello qui sont avec nous. Mais nous accueillons d'abord, avant de parler de Marseille, la crise à l'OM et puis d'Adrien Rabiot, ce sera dans le dernier quart d'heure, nous accueillons avec grand plaisir Laurent Nicolin, le président de Montpellier. Bonsoir président.
Bonsoir messieurs.
Laurent, vous avez été l'un des premiers à dédramatiser un petit peu la situation du football français lorsque le gouvernement a décidé d'arrêter toutes les compétitions. A fortiori, puisque vous aviez un joueur qui avait été touché par le virus Sambia, mais évidemment pas uniquement à cause de ça. Quel a été votre sentiment dans une certaine cacophonie qui a régné? On a entendu le président Aulas sur notre antenne samedi dernier, qui maintenait ses positions, hein, évidemment contre le fait que l'on doive arrêter. Vous, vous dites, bah, tant pis, on arrête, c'est le principal, c'est de se sauver.
On va refaire le match, donc on va le refaire, mais à un moment donné, il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement, qui après ont été suivies par la Fédération française de football et la Ligue. Alors voilà, comme on a dit, il y a eu des choix qui ont été faits, c'est peut-être pas les meilleurs, mais on a essayé de prendre les moins mauvais choix. Après, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Après, il y a un virus qui est là. Donc voilà, donc au bout d'un moment, ça sert, on peut ressasser tous les jours, on peut en parler tous les jours. Voilà, une décision qui a été prise, il faut la... Moi, je suis quelqu'un que quand c'est fini, on part sur autre chose, on avance, et puis voilà.
Philippe Sansfourche.
Oui, bonsoir Laurent Nicolin. Quand vous voyez le football qui reprend, c'était l'actualité aujourd'hui, hein, avec la Bundesliga, on a vu des matchs à huis clos, des joueurs masqués sur les bancs de touche, des ballons désinfectés pendant les arrêts de jeu, un autre football. Quand vous voyez ça, je ne sais pas si vous avez vu les images, si vous avez eu l'occasion, non. Mais... pour vous, ça reste du foot. Vous êtes un petit peu, finalement, il y a une forme de, pas de jalousie, mais on se dit, ah, quand on revoit que ça joue, on aurait bien rejoué, ou ça vous conforte dans l'idée que c'était pas raisonnable et qu'il fallait arrêter?
Bon, ni l'un ni l'autre, effectivement, c'est du foot. Après, c'est toujours plus beau un match de foot avec un stade plein, ou au moins déjà, même si c'est pas plein, au moins avec des spectateurs pour pouvoir au moins communier cette passion entre joueurs, staff et spectateurs. Après, non, je n'ai pas de jalousie. Après, l'Allemagne a pris le choix de le reprendre dans une certaine norme hygiénique. Après, voilà, ça a été fait, c'est comme ça. Mais tant mieux pour eux. Si d'autres pays reprennent, mais tant mieux pour eux. Si d'autres pays ne reprennent pas, mais tant mieux pour eux aussi. Voilà, je n'ai pas à juger si c'est bien ou pas bien. Tant mieux pour le Allemagne. Après, on va voir si tous les pays tout vont reprendre, si l'UEFA va reprendre la Ligue des Champions ou les Coupes d'Europe, et si les Allemands vont aller jusqu'au bout où ils peuvent aller. Donc voilà, nous on était préparés pour essayer de reprendre avec nos docteurs, avec nos joueurs, avec nos staff, mais on ne peut pas, on va pas, voilà.
Avant de donner la parole à Eric Silvestro, un sondage de Doxa, Groupama, RTL, nous dit justement, Laurent, que pour les Français interrogés, 77% d'entre eux en tous les cas sont contre cette reprise en Allemagne et 80% des amateurs de foot trouvent que c'est prématuré. Eric Silvestro.
Oui, sans remettre en cause évidemment les décisions qui ont été prises parce que c'est la santé avant tout, mais quand on voit en effet les autres championnats essayer, alors on ne dit pas qu'ils iront à leur terme, peut-être que ce ne sera pas le cas. Est-ce que simplement l'histoire de dire est-ce que la décision a été prise un peu vite en France parce que peut-être le poids du foot n'est pas le même qu'ailleurs, est-ce que ça on peut le concéder ou pas?
Oui, si vous voulez, oui, on peut tout concéder. Après, Après, je pense qu'on peut, on peut parler jusqu'à 4h du matin, ça avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où il y a eu un choix fait par le gouvernement de stopper, que ce soit pas que le foot, que ce soit le rugby, que ce soit... Alors après, il a parlé du football parce que c'est peut-être le sport le plus populaire en France. À partir du moment où il y a une décision qui a été prise, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Après, il y a eu, il y avait un conseil d'administration qui a été fait après de, un ou deux jours après, la décision a été prise que parce que le gouvernement avait décidé. Après, je suis moi quelqu'un de... alors on peut être gilet jaune, on peut être... se rebeller être, et être contre tout. Maintenant, il y a un choix qui nous dit vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas rejouer. Donc, ça ne sert à rien de persister, de s'entêter. Je pense qu'il y a, il y a des choses plus graves actuellement qu'on vit en France et en Europe et dans le monde que de jouer, après de courir après un ballon. Après, on peut tout dire, tout imaginer. Oui, ça fait chier de ne pas jouer au football, mais à un moment donné, voilà, il y a des gens qui meurent et je pense que la personne qui meurt, elle n'a rien à foutre qu'il y ait des matchs de foot ou pas. Quoi.
On est tous d'accord là-dessus. Simplement, voilà, moi, je me dis est-ce que le football
Eric Silvestre
a eu le même traitement, la même réflexion sur la durée que d'autres domaines. Je ne dis pas que le football devait rejouer et d'autres non. Je me pose simplement la question.
Ben, beaucoup de domaines. Regardez, la restauration encore n'a pas rouvert. Les hôtels sont fermés. Les plages, bon, ont rouvert un peu aujourd'hui, mais c'était compliqué. Je pense qu'on vit dans une situation où un peu tout le monde vit un peu au jour le jour, comme on l'a fait nous un peu. On vivait nous aussi en tant que dirigeants au jour le jour avec des réunions quotidiennes en essayant d'essayer d'anticiper une éventuelle reprise, essayer d'anticiper plein de choses. Mais voilà, il y a un virus qui est là. On essaye anticipé, mais malheureusement, je pense alors le gouvernement a pris des choix, on les exécute, ils sont bons, ils sont pas bons, j'en sais rien, je suis pas politicien, deux, je suis pas docteur, ben, je suis juste président d'un club de foot, et moi, quand on me dit, tu joues plus, ben je joue plus.
Oui, Laurent, comment vos joueurs ont vécu cet arrêt, parce que y a des joueurs à Arsenal qui voulaient pas reprendre, des joueurs dans tous les clubs, dans tous les pays, qui ont réagi forcément différemment, c'est humain. Est-ce que vous avez, vous, un sentiment par rapport au groupe, à la majorité du groupe, est-ce qu'ils ont été derrière vous, est-ce qu'ils étaient plus déçus que vous ou pas? Est-ce que tout le monde s'est rangé derrière vous?
Ben nous, on a vécu quelque chose de particulier parce qu'on a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu un joueur qui a été proche de, qui était pas très bien, qui a eu le Covid et qui, heureusement pour lui, pour nous et pour sa famille, s'en est sorti. Donc c'est vrai que nous, ça nous a un peu ébranlé. On a créé un groupe avec des joueurs où j'essaie de les informer tous les jours de la situation de Junior. Donc c'est vrai que nous, ça a été, je pense que, alors peut-être c'est égoïste de votre part, mais nous, pour nos joueurs, pour moi, ça, c'était un soulagement de pas reprendre parce que on a vécu de près. Voilà, la douleur de peut-être perdre quelqu'un et qui était dans un état très critique. Donc voilà, donc nous on a eu la notion on a vécu quelque chose qui était compliqué pendant une semaine. Donc je pense qu'il y a eu la part du groupe plus un soulagement, un, que Junior aille mieux, et deux, quand on a dit qu'on ne reprenait pas, je pense que c'est peut-être humain, parce qu'on vit quelque chose de poussé, voilà, il y a eu peut-être il y avait un certain rejet de la reprise. Après, s'il a fallu reprendre, ils auraient repris, il n'y avait pas de souci, on a discuté, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu un soulagement inconscient de ne pas reprendre, parce qu'on a vécu quelque chose pendant 10 jours d'assez compliqué. Quoi.
Alors, un sondage encore, hein, Odoxa Groupama RTL disent que les Français, 73% des Français sont d'accord avec le fait de ne pas reprendre et que le classement a été arrêté en fonction du nombre de points obtenus par match après la 28e journée. C'est plutôt bien. 76% des amateurs de football également. Philippe Sanfour, cher TL.
Oui, je voulais revenir sans rentrer dans sa vie privée ni violer le secret médical. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous nous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que votre joueur Junior Sambia s'en est sorti. Est-ce qu'il va mieux? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça peut impacter sa vie de sportif de haut niveau? Parce qu'on a vu par exemple en Allemagne un éminent médecin prévenir, dire attention, on n'a pas de recul aujourd'hui, le risque que l'on prend, peut-être qu'il n'y aura pas de drame avec la reprise du football, mais on aura peut-être des joueurs touchés par cette maladie, et il est possible qu'il y ait des lésions pulmonaires qui après fassent que le joueur de haut niveau n'est plus le même joueur de haut niveau. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est une crainte à votre niveau, c'est encore trop tôt? Comment va votre joueur? Est-ce que l'évolution est positive?
Ben, il va bien, après Après, effectivement, comme vous dites, il y a peut-être des répercussions. Après, on le verra ça quand il sera médicalement autorisé à recourir et refaire des efforts physiques, ce que pour l'instant, il n'a pas le droit. Donc, on sait, nos docteurs nous ont dit qu'il y avait peut-être des risques sur son organisme. Après, c'est un sportif de haut niveau, il devrait récupérer plus vite. Mais bon, comme vous dites, il a été intubé, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Donc automatiquement, l'organisme corporel a été touché. Donc, après, moi, je ne suis pas assez technicien pour en parler. Donc, on verra à la reprise s'il a pu faire son protocole médical avant de reprendre.
Est-ce que vous avez compris, Président, un petit peu ce qui a suivi cette crise et puis surtout la décision gouvernementale et ensuite la décision d'arrêter à la 28e journée avec les calculs? Certains présidents avaient avancé des calculs assez savants pour que leur club notamment ne soit pas lésé ou qu'il y ait d'autres décisions prises. Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces présidents? Est-ce que vous avez été en colère? Est-ce que vous avez été révolté ou plutôt abattu? Quel sentiment vous avez ressenti lors des premières réactions de tous vos collègues présidents?
Et les contacts, oui, on a des groupes, on s'appelle, on fait des réunions, donc automatiquement il y a des contacts. Après, tu passes d'un moment où tu rigoles, un moment où tu compatis, un moment où tu comprends les choses. On passe au football, on passe beaucoup de sentiments, parce que souvent, malheureusement, c'est par intérêt de chacun que les gens trouvent la meilleure formule qui peut être le Graal pour chacun. Voilà, c'est dommageable par moment, à part peut-être 4-5 clubs, 6 clubs qui ne pouvaient ni jouer l'Europe ni descendre, que à la limite, bon, ça changeait pas grand chose à part une ou deux places. Voilà, après, bon, des fois, il y a un sentiment où tu t'es énervé parce que tu dis c'est n'importe quoi, et puis à un moment donné, tu comprends la situation. Malgré tout, tu peux comprendre. Tu en comprends plus pour certains, parce que moi, je vais plus compatir, parce que c'est ce que je peux vivre. C'est une descente éventuelle, donc je compatis plus avec Amiens et Toulouse, parce que leur situation est pas enviable, parce qu'ils descendent en Ligue 2, donc automatiquement, c'est plus compliqué. Après, les autres qui sont 7e, 8e, 9e, et ou 4e, qui veulent faire les champions, et l'autre qui est 8e, qui veut faire l'Europe, bon, à un moment donné, bon, oui, on peut tout penser, tout faire. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on a essayé, nous, moi j'étais au comité scénario, pour essayer de faire les choses, on a essayé de faire les moins mauvais choix. C'est tous des mauvais choix. Malheureusement, quand tu n'arrives pas au bout d'une saison, automatiquement, il y aura toujours quelqu'un qui peut dire « Ouais, mais moi j'allais gagner les 10 derniers matchs ». Oui, effectivement, ouais. Mais en fait, tu peux les perdre aussi, quoi. Donc, à partir de là, on peut tout imaginer. Et même moi, j'aurais fini second, quoi. Mais après, il faut un peu... Je pense qu'il peut y avoir un peu d'excitation pendant 48 heures. Puis après, tu te dis, bon, maintenant, c'est bon. Tirons un trait. La saison est finie. Calculons nos pertes. Essayons de réfléchir à ce qu'on peut, les budgets qu'on peut faire la saison prochaine. Essayons de faire une équipe compétitive. Et puis voilà. Puis on partons sur une nouvelle saison. C'est ça qui, à un moment donné, c'est plus ça qui est énervant. Parce qu'on remet sans cesse le doute de dire on peut jouer, pas jouer. On peut reprendre, pas reprendre. On fait l'Europe, pas l'Europe. Je pense que allez, continuons.
Oui, mais
parce que j'allais déborder sur autre chose.
Donc... Non, mais c'est peut-être là-dessus qu'on va aller, mais j'en sais rien. Mais vous avez eu l'élégance, et vous l'avez toujours, on l'entend, de ne pas insister sur ce choix. Il y avait ce double choix d'arrêter le classement à la 27e, à la 28e journée, qui avait une incidence quand même très importante. On a beaucoup entendu, peut-être un peu trop d'ailleurs, on aura votre avis là-dessus, Jean-Michel Aulas, sur les incidences que ça avait. Vous étiez directement concerné, puisque vous pouviez également accéder à l'Europe. Et on aura tout à l'heure la joie et l'honneur de recevoir Dominique Sévrac et nos amis du Parisien qui nous ont révélé cette possible fronde en fait de présidents qui se sont entendus en fait au moment d'arrêter cette décision. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous...
C'est quoi de la fronde?
Est-ce qu'elle existe selon vous? Est-ce que
non,
vous avez
non,
des éléments?
Non, non, après, alors, je suis pas... Après, moi, vous savez, je lis tous les articles, j'essaie de voir les choses. Après, la seule chose que je vois, c'est que moi, je suis au conseil d'administration, mais moi, dans l'article du Parisien, on ne parle pas de moi. Donc, je dois faire tâche, parce que c'est vrai que je me suis abstenu. On ne le dit pas que je me suis abstenu. Moi, si je fais la journée 27, je suis 6e. Alors, européen, pas européen, ça dépend en fonction des coupes. Ce qui est sûr, c'est que de la 6e à la 8e place, je perds entre 3 ou 4 millions d'euros. Si jamais je suis européen, je fais quelque chose, je peux prendre entre 8 et 10 millions d'euros de plus. Donc effectivement, ouais, j'aurais pu, mais je ne suis pas dans la fronde, parce que, ou alors ils ont une fronde contre moi, mais ce n'est pas ce qu'on sentait. Vous savez, il y a une ligne directive qui a été peut-être imposée indirectement par Noël Le Graët, qui en conseil d'administration a dit que lui, il souhaitait que ce soit la 28e journée dans le même mode de calcul que la FED, et les gens ont suivi. Voilà,
ouais, quelque part, il n'y avait pas besoin de fronde pour vous, en fait. C'était déjà...
La fronde, après, je ne veux pas... Après, vous savez, je peux être parfois tordu, mais j'essaie quand même si j'ai pas une grande confiance dans
c'est peut-être un grand mot, la fronde, on va dire une entente, entente cordiale.
Non, mais même pas, non, parce que ça n'a pas été de discussion. Alors après, peut-être, attendez, il y a des black shadows, des trucs, des blacks, des je sais pas quoi, donc j'en sais rien, mais bon, je vois pas pourquoi ça serait plus la 27 que la 28, plus le système 2. Après, c'était à chacun de faire son lobbying de son côté pour essayer. Moi, personnellement, j'étais au comité scénario. J'ai estimé qu'il y avait, voilà, dans les nombres de choix, il y avait la journée 19, la journée 27, la journée 28, style FFF. Puis après, c'était au conseil de façon de la Ligue de valider, voilà, tout simplement. Après, moi, je me suis pas battu ni pour contre. Moi, le premier, je me suis abstenu parce que j'estimais, moi, étant membre du conseil d'administration, de ne pas avoir à voter parce que je trouvais ça indécent que je puisse voter pour quelque chose qui puisse m'arranger moi, quoi. Donc, je préfère fermer ma gueule et dire que je m'abstiens. Et voilà. Mais après, chacun, vous savez, se regarde devant la glace et fait les choses ou ne les fait pas. Moi, j'ai ce que j'ai estimé. Après, bon, j'ai peut-être tort, mais bon, c'est comme ça.
Laurent-Nicolas, en vous écoutant, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse et puis j'ai l'impression que finalement tout était beaucoup plus organisé qu'on peut le voir de l'extérieur. Mais vraiment, encore une fois, de l'extérieur, on a eu le sentiment que c'était une grande cour de récréation avec beaucoup de caprices, avec beaucoup de chamaillerie, tout ce qui s'est passé. Est-ce que quand même il y a eu des déceptions dans le comportement de certains, dans ce qui s'est passé dans les clubs de Ligue 1, dans cette gestion? Parce que franchement, de l'extérieur, ça faisait vraiment chamaillerie, quoi.
Ben, ça fait un peu cours d'école, mais je pense que c'est pas plus au football qu'au rugby, que j'ai vu que dans notre sport ou dans des banques ou dans des assurances ou autre chose, ça va être plus pareil. La seule chose qui est sûre, c'est que dans cette période-là, on a découvert des êtres humains d'une façon certaine, que tu te dis qu'ils sont peut-être fiables et sur qui tu peux pousser sur l'avenir, et d'autres personnes, tu te dis que ce ne sont pas des gens fiables parce qu'ils changent d'avis comme de chemise. Mais bon, ça, après, ça, c'est la vie qui t'apprend ça tous les jours, donc pas plus, pas moins. Après, on a poussé, on a essayé de faire des choses, on a fait beaucoup de réunions, beaucoup des fois qui servent à rien parce qu'on fait parler, et c'est toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes qui parlent et toujours les mêmes qui ont raison, les autres, c'est tous des cons. Donc on essaye de. Ouais, moi, après, j'essaye de trouver quand même, malgré tout, il y a une certaine solidarité. Je pense que les présidents, quand même, sont conscients des choses. Après, il y en a certains qui se défendent, qui veulent parler plus fort que d'autres, mais bon, malgré tout, dans la grosse majorité, on a quand même entendu plus ou moins. Après, il y a peut-être une cacophonie parce que, vous le savez, vous êtes des journalistes, et un va appeler l'autre, telle radio va appeler un autre, tel journaliste va appeler un autre, donc après, il y a des voix dissidentes parce que chacun veut s'exprimer, chacun.
Mais dans ces cas-là, faut quelqu'un qui tape un peu du poing sur la table. Moi, je vous ai lu aussi avec intérêt dans l'interview que vous avez donnée au Figaro en disant pour arriver à l'intérêt général, il faut qu'on soit aussi guidé par des gens en mesure de le faire. C'est une attaque à peine voilée sur nos dirigeants de la Ligue, par exemple, qui n'ont aucune autorité.
C'est pas une attaque. Le journaliste m'a attaqué en disant que telle personne avait dit que c'était un peu la cacophonie chez les présidents. J'ai dit oui, effectivement, c'est peut-être la cacophonie chez les présidents, mais c'est comme tout, c'est comme à la cour d'école. Dans une classe d'école, il y a la cacophonie. Si le maître, à un moment donné, ne tape pas sur la table pour dire. Enfin, le maître, je fais un peu ancien quand je dis ça. Le professeur dit stop. Si tout le monde ne se stoppe pas, c'est le bordel. Donc, à un moment donné, oui, il faut une personne qui, à un moment donné, ait soit d'envergure pour dire maintenant, vous nous gonflez tous, maintenant vous arrêtez, on prend telle directive, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, c'est comme ça. Autrement, et puis oui, mais ça c'est comme ça, mais ça après ça se mettra peut-être en place un jour petit à petit. Après, il faut dire qu'on est quand même les dirigeants de. C'est quand même spécialement compliqué à gérer, donc comme je vous dis, il y a des égos, donc des fois c'est pas facile pour la Ligue aussi, c'est pas facile pour la Fédé de nous gérer à nous, comme nous, des fois on peut avoir des reproches vis-à-vis de la Ligue ou vis-à-vis de la Fédé, mais après, malgré tout, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de paroles, beaucoup plus de choix qui pensent que c'est un peu le bordel, mais il y a quand même une certaine solidarité. Et j'espère que dès la semaine prochaine, en conseil d'administration de la Ligue, on validera les droits télé qui ont été votés le 10 mars en collège de Ligue 1, qu'on aidera la Ligue 2 aussi, si on peut aider la Ligue 2, et qu'à un moment donné, voilà, on va aplanir un peu la situation.
Et tout ça à 20, tout ça à 20, pas à 22.
20 clubs.
Mais de toute façon, que ce soit 22 clubs, on n'a pas le droit d'être à 22 clubs. Donc, pour l'instant, notre système.
Ouais, enfin, la situation exceptionnelle que l'on vit en ce moment pourrait faire aussi qu'on puisse dépoussiérer certains règlements. Je veux dire, effectivement, on l'a vu. De toute façon, il n'y avait pas de règlement pour l'arrêt de la saison. Donc, on peut aussi changer un règlement pour la suite qui, de toute façon, est exceptionnelle. Mais sur principe, c'est possible ou c'est pas possible? Ça vous paraît totalement ingérable pour sauver Amiens, notamment?
Moi, je vais vous répéter, et j'aimerais sauver Amiens, j'aimerais sauver tout le monde, même si on peut jouer à 40, si on peut faire une Ligue 1 à 40, il n'y a pas de souci. Il y a un accord à FFF et Ligue de football où autant la Ligue 2 peut jouer à 22 clubs. Alors après, ne me demandez pas pourquoi la Ligue 2 elle a le droit de jouer à 22 et pas la Ligue 1, alors que la Ligue 1 n'a pas le droit. Ça, après, ça, c'est des choses qui ont dû être datées. Je suis pas assez, je sais pas. Donc, c'est comme ça. Donc, je vous répondrai le jour où on aura le droit, il y aura une délibération de la Fédé qui autorise la Ligue 1 de jouer à 22. Là, je vous dirai si je suis d'accord ou pas d'accord.
Alors, Laurent-Nicolas, sur l'argent, il y a eu une réunion hier qui est peut-être, enfin, même sûrement positif, 400 millions d'euros partagés à égalité avec les clubs de l'élite, c'est une bonne nouvelle pour Montpellier qui a été champion en 2012.
Oui, mais j'attends. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui. Il y a des accords, mais ça a été compliqué hier quand même. Parce que, ouais. Vous savez, pour adopter un PV d'une réunion qu'on a fait tous, où on a voté le 10 mars avant le confinement, où tout le monde était d'accord. Voilà, un accord de PV, ça prend 5 minutes, ça a pris 2 heures hier. Donc vous comprenez bien que j'attends quand même, même s'il y a des choses qui ont été votées et qu'on est d'accord, j'attends quand même le vote de l'Assemblée générale le mercredi qui valide ça. Donc moi je suis quelqu'un de...
Avec notamment des droits en plus pour des clubs potentiellement européens, c'est-à-dire qui véhiculent une image peut-être à l'extérieur. Moi je voulais avoir votre avis aussi là-dessus.
Équipe, parce que vous n'êtes pas dedans.
En quoi est-ce que Bordeaux et Saint-Etienne, par exemple, sont plus un profil européen que Montpellier?
Non, c'est pas.
On va rappeler, Laurent Nicolas, on va rappeler, il y a 9 équipes, Paris, Montpellier, Paris, Lyon, Marseille, Monaco, voilà, Bordeaux, Rennes, Lille, Nice et Saint-Etienne qui sont dans le groupe, hein, des 9 équipes, et Montpellier n'y est pas. C'est vrai que Philippe pose une bonne question, pourquoi Montpellier n'y serait pas?
Non, tout simplement parce que dans les discussions qu'on a eues au mois de mars pour les droits télé, il y avait des droits européens qui sont de tête. Alors je dis une énorme bêtise, mais pour moi, ce sont 50-60 millions d'euros. Et l'idée, c'était que, bon, pour que certains clubs acceptent malgré tout l'écart de 2,38 entre chaque club et la manne comme égalitaire, c'est que ces clubs, on partait que chaque club qui avait fait depuis 5 ans au moins les poules, que ce soit en Europa League, ouais, ou en Champions League, soit bénéficie de cette manne financière. Et c'est vrai que c'est ces 9 clubs qui, sur les 5 dernières saisons, ont fait au moins une fois le... les poules.
Il y a un président, Laurent Nicolas, qui s'obstine, ouais, envers, c'est un peu le Don Quichotte, hein, Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce que vous pensez de son action? Le sondage de Doxa, RTL Groupama, donc des amateurs de football, disent que 67% des Français, donc des amateurs de foot en tous les cas, Jean-Michel Aulas a tort de s'obstiner par rapport à tous ces recours qu'il a fait pour reprendre le championnat, par rapport à ce qui s'est fait en Allemagne aujourd'hui, qui va peut-être se faire en Italie et en Espagne. Est-ce que vous pensez que Jean-Michel Aulas a tort?
Il défend son club. Après, est-ce qu'il le défend bien ou le défend pas bien? Je ne suis pas juge pour estimer. Après, j'ai une profonde estime pour Jean-Michel Aulas. Et je pense que c'est certainement l'un des plus grands dirigeants français, si ce n'est le meilleur plus grand dirigeant français qu'on a eu depuis 30 ans. Après, c'est vrai qu'au bout de moment, moi j'ai trop de respect pour lui pour pouvoir critiquer quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, la seule chose que je peux dire, et je lui dirais, si on savait, c'est vrai qu'au bout de moment, bon voilà, ça ne sert à rien de... taper les pieds, il faut arrêter, quoi. Mais bon, après, il défend son club, alors après, ça plaît pas. Je pense que la façon, comme il le fait, peut-être déplaît aux gens, parce que c'est vrai que ça donne un sentiment d'insistance sur un peu sur tout et n'importe quoi.
Mais bon, dessert un peu fait, parfois, effectivement, le discours, c'est certain.
Ben, je pense que ça dessert le football français, ça dessert les clubs aussi, mais bon.
Et lui-même, selon le sondage, en tous les cas, sa propre image et l'image de l'Olympique Lyonnais aussi. Philippe Sanfourche.
Oui, Laurent Nicolas, pour se projeter maintenant un petit peu et puis parler aussi de votre club, comment se présentent les semaines à venir financièrement déjà? Est-ce que l'emprunt de la Ligue va vous aider un petit peu à surmonter les difficultés? Et comment vous êtes organisé tout simplement en ce moment? Est-ce que les joueurs, ils sont en vacances? Est-ce qu'ils sont au chômage partiel? Comment ça se passe là?
Non, les joueurs sont encore en chômage partiel jusqu'à fin mai. Et début juin, ils vont basculer en 3 semaines en congé avant une reprise éventuelle qui est prévue le 22 juin. Ben écoutez, on travaille, on essaye de limiter la casse déjà pour le budget de cette saison qui il y a 3 mois aurait été bénéficiaire, là va être certainement déficitaire. Après l'ampleur dépendra de comment on mettra les sous que va nous donner la Ligue, si on peut les rentrer comptablement dans le compte de cette année, dans nos exercices de cette année ou pas. Après j'ai des fonds propres qui sont assez conséquents, donc qui permettront de compenser cette perte.
Mais vous savez quand vous allez toucher cette somme par exemple?
Non, on ne sait pas qu'on va la toucher. Après, si on attend mercredi que ce soit déjà validé par le conseil d'administration et l'Assemblée générale qui suit, après, ça devrait suivre après en juin ou en juillet. Mais c'est déjà la discussion de savoir si comptablement on peut le mettre dans nos comptes. Quoi, parce que moi, je vais être certainement à au moins 8 ou au moins 10 millions d'euros. Si je peux le mettre dans mes comptes, ben, ça va limiter la casse et ça m'évitera, comme je vous dis, de taper dans mes fonds propres qui sont souvent imposés par la DNCG pour avoir le plus de fonds propres possible. Donc,
Eric Silvestro va vous poser une question.
Le dessin de l'effectif de la saison prolongation, la première recrue, c'est la prolongation de Vittorino Hilton, hein, 42 ans, ouais. Respect à lui, encore une fois.
Doyen de Ligue 1, ouais.
Incroyable. Ça, c'est une recrue quelque part, j'ai envie de dire. Mais aussi, voilà, quel sera le dessin de Montpellier? Est-ce que vous envisagez quand même de pouvoir faire un mercato conséquent, pas conséquent?
Au niveau du gardien aussi, notamment.
conséquent, non, parce qu'on n'aura pas les, la surface financière pour le faire, parce qu'on parlait beaucoup d'interrogations la saison prochaine avec, avec une perte peut-être sur notre budget qu'on avait prévu de entre 10 et 20 millions d'euros. Donc il va falloir voir où, comment on fait pour compenser ces pertes. Après, c'est sûr qu'il nous faut un gardien. Si on n'arrive pas à garder notre gardien actuel, ben, qui est prêté par la Real Sociedad, ben, il faudra en trouver un.
Oui, c'est l'Argentin Rulli. Oui.
Oui, Rulli. Après, trouver peut-être un attaquant de complément pour jouer avec, avec Laborde et Delors devant. Mmh. Et voilà, puis après, on essaiera de voir. Après, j'ai un effectif qui, quand même, j'ai tous mes joueurs qui sont sous contrat. Donc, si je n'ai pas de départ, j'ai quand même une équipe compétitive qui a terminé 8e cette année à l'indice de la 28e journée. Donc, donc voilà, donc je ne suis pas.
C'est surtout un peu Laurent Nicolas, 10 secondes à 200 km à peine de chez vous, ça brûle. Marseille, vous avez une idée là-dessus?
J'ai déjà assez de soucis avec mon club pour pouvoir juger et parler de notre club. Donc, je leur souhaite que ça ne brûle pas trop. C'est quand même un grand club. Ils ont retrouvé la Ligue des Champions. Donc, je leur souhaite
merci.
Le mieux possible pour eux.
Merci, Laurent Nicolas, d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. C'est très gentil à vous. Le président de Montpellier, champion de France en 2012. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Nous parlerons bien sûr de Marseille et de l'avenir d'Adrien Rabiot dans quelques instants sur RTL jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro, David Aiello et Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France. À tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match sur RTL, Denis Balbir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, David Aiello et Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France. Laurent Nicolas, le président de Montpellier, était notre invité. Dominique Sévrac, toujours aussi agréable d'écouter Laurent Nicolas.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Bonsoir, ça va ? Très heureux de vous retrouver.
Bah oui, Laurent Nicolas, c'est un peu la voix de la sagesse au milieu de tous ces présidents avec un ego surdimensionné qui sont tous en train de la ramener, de toujours parler de leur intérêt individuel. Lui, d'après aussi ce qu'on me raconte dans les réunions, il essaye un peu plus de parler de l'intérêt général que de l'intérêt de Montpellier en particulier. Donc voilà, il a peut-être moins de surface médiatique qu'un Jean-Michel Aulas ou que Jacques-Henri Hérault ou que même le président de Lille, Gérard Lopez. Voilà, mais il essaye au moins de faire avancer les choses au nom du collectif. Donc je dis bravo à lui parce que le spectacle auquel on assiste depuis 2 mois est quand même affligeant. J'ai compris pourquoi la Ligue 1 était aussi nulle, parce qu'en fait, elle est dirigée par des gens nuls.
D'accord, comme ça, c'est parfait. C'est une bonne entrée, Dominique Sévrac.
Oui, c'est pas la sagesse, par contre.
David Aiello.
Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, là où je rejoins complètement Dominique, peut-être pas sur la conclusion, mais en tout cas sur Laurent Nicolas, c'est qu'on a découvert ces dernières semaines une voie qu'on connaissait peu, parce que c'est vrai que Montpellier a plus les résultats qu'a pu avoir le club par le passé.
Même s'ils sont réguliers.
Même s'ils
sont
réguliers.
Il faut quand même le souligner.
On rappelle quand même qu'ils ont été champions de France il y a moins de 10 ans de ça, finalement. C'est une voix qui est agréable, je trouve, à entendre, et on a découvert quand même un personnage assez intéressant qui tire pas forcément effectivement la couverture à lui. Et puis voilà, qui avait des positions un petit peu moins tranchées, un petit peu plus équilibrées. J'ai trouvé que ça faisait du bien. Alors c'est vrai que là, on sent également qu'il est dans une position peut-être un petit peu de rassembleur. Il a pas voulu allumer forcément certains de ses camarades, tout en laissant entendre qu'il y avait certains comportements qui parfois l'avaient agacé. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui gagne à être connu dans le football français. Et je ne serais pas étonné de le voir continuer à grandir comme ça au sein du football hexagonal.
Oui, ça serait pas mal.
Le symbole, c'est quand il nous explique s'être abstenu pendant le vote. Ça paraît logique et compréhensible comme ça quand on l'écoute. Mais enfin, quand il est là au moment de voter et que ça peut se jouer à une voix près, il a quand même parlé d'entre 4 et 8 millions d'euros en fonction du classement. Rien ne t'empêche de voter quand même pour le truc qui t'arrange. Après, si les autres font différemment, tu peux dire, bon, ben voilà, c'est la majorité qui l'a emporté. Mais lui, je pense qu'il ne l'a pas dit pour du flanc. Donc, il s'abstient parce qu'il dit, moi, je suis partie prenante. Ça peut m'intéresser ou pas, donc je m'abstiens. Je trouve que rien que ça, ce comportement-là veut déjà dire en effet que son comportement est louable.
Oui, parce qu'il y a des postures, c'est toujours facile de prendre des postures. Quand, quand la situation t'arrange derrière, tu peux toujours effectivement estimer que c'est formidable et qu'il y a une solidarité. Mais là, pour le coup, il y avait des décisions qui pouvaient ne pas l'arranger et il est resté neutre. On peut même estimer, je ne sais pas, peut-être que certains supporters de Montpellier peuvent peut-être estimer qu'il n'a pas suffisamment défendu le bout de drap pour essayer d'amener
Alors,
Montpellier.
Justement, Baptiste Durieux est là pour relayer les auditeurs, on va en avoir de Montpellier, mais les avis sur les réseaux sociaux par rapport à notre invité.
Bien sûr, sur le @RTLFoot, très élogieux comme vous, messieurs, message d'Alexandre, même pour parler de Aulas et de Marseille, et Dieu sait que c'est difficile, Laurent Nicolas reste respectueux, digne, posé, réfléchi, un vrai président, message de Dimitri, si tous les présidents étaient comme Laurent Nicolas, notre Ligue 1 aurait un autre visage, c'est le parapluie dans un orage, on dirait le pape, nous dit Dimitri. Et puis message de Ryan, Laurent Nicolin a juste une réaction normale de président que tous auraient dû avoir.
Et Ludovic qui est avec nous, le supporter de Montpellier, qui a écouté son président avec intérêt, j'imagine. Ludovic, quel est ton sentiment, votre sentiment par rapport à ce que vous avez pu entendre tout à l'heure?
Oui, tu peux me tutoyer, pas de souci. Bonsoir à tous, vous êtes nombreux. En tout cas, merci à l'équipe RTL pour l'interview qui était super intéressante. L'avis, franchement, qu'on soit 8e, 6e parmi dans le contexte actuel, pardon, ça passe au second plan, forcément. Et on n'est pas du tout déçus de la position de Laurent Nicolin. D'ailleurs, on est fiers d'être montpelliérains et d'avoir un président comme ça qui a su se mettre, pour parler de foot, au-dessus de la mêlée. Et la position, oui, elle était bonne. Moi, j'aime beaucoup ce président qui a été dans le consensus, qui porte des valeurs. Et je pense que c'est à l'image du club. Voilà, on aime Montpellier aussi pour ça, pour ce côté famille, ce côté solidaire, et c'était pas surtout dans cette situation avec l'épidémie et le Covid-19 qu'il fallait changer ça, et il a su porter ces valeurs d'entraide, de solidarité. De toute façon, Nicolin, c'est un bosseur, c'est un mec qui, ok, va pas avoir la notoriété médiatique, je sais pas, mais en tout cas qui va être droit, qui continue, droit dans ses bottes, voilà. Et du coup, voilà, nous, ça nous étonne pas du tout, en tout cas. Et le fait de pas avoir pu accrocher l'Europe, comme il a pu le dire, c'est que partie remise, on sera là l'année prochaine et on va continuer. Et en attendant, on suit bien évidemment avec attention la suite, parce que forcément, on l'entendait à la fin de l'interview, le mercato, il y a pas mal de choses de toute façon dans les clubs qui vont être compliquées à gérer, ouais. et les supporters continueront à être là. Et en attendant de retrouver la Mosson et les terrains très bientôt, quoi. Forcément comme vous aussi, hein, les gars.
Dominique Sévrac du Parisien, oui, aujourd'hui en France.
Il fait honneur à sa qualité d'administrateur de la Ligue, puisqu'il est membre du conseil d'administration de la Ligue. Et en fait, ils sont là pour administrer le football français, c'est-à-dire dépourvu de tout intérêt individuel. Lui, il joue vraiment le jeu, alors que les autres autour de lui... Le problème de Laurent Nicolin, c'est que c'est une exception. Parce que les autres, ils viennent au conseil d'administration, Valdemar Quita, Marc Ingla de Lille, la liste, elle est connue, Bernard Caillazot, tout ça. Il y a 8 présidents ou apparentés de Ligue 1. Ils viennent, eux, pour défendre leur beefsteak et pas défendre l'idée du football français. Et Laurent Nicolin, lui, en revanche, il se dit, qu'est-ce qui est bon pour le football français? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les décisions à prendre? Et le problème, c'est qu'il est minoritaire à être comme ça. C'est dommage.
Tu penses, Dominique, que par exemple au COMEX de la Fédé où siège Jean-Michel Aulas, un homme comme Laurent Nicolin, ce serait peut-être plus représentatif de l'intérêt général?
Alors, pourquoi tu penses qu'au COMEX, Jean-Michel Aulas... Le problème du COMEX, c'est que c'est dirigé par Noël Le Graët et que celui qui dirige aussi la Réunion... l'influence nettement. Le problème aussi du conseil d'administration, c'est qu'il est dirigé non pas par des gens ou de mauvaise qualité que sont Nathalie Baudelatour ou Didier Quillot, mais le fonctionnement de la Ligue avec deux directeurs fait que ça ne peut pas marcher. Donc, parce que les deux ne sont pas choisis, donc voilà. Mais pour répondre à ta question, je pense que Jean-Michel Aulas se permettrait pas à la Ligue. Il fait pas ça à la Fédération, voilà. Parce qu'il y a une autorité forte et donc, entre guillemets, il la ferme. Alors que si, à la Ligue, comme il voit qu'il n'y a pas de direction, ou qu'il y en a deux, et que les deux s'annulent, et ben là, il se permet de vociférer.
On va parler juste après la pub de l'Allemagne qui a repris. Un dernier mot sur Laurent Nicolin, David Ayello?
Non, mais effectivement, je pense que sa voix commence à porter, et qu'on a envie effectivement de voir Montpellier continuer à grandir comme ça, tel qu'on l'a vu ces derniers temps.
Et pour conclure là-dessus, parce qu'on l'a rappelé, il nous a donné d'ailleurs des nouvelles de Junior Sambia, on s'aperçoit aussi que dans cette crise, et là ça dépasse le football, il y a ceux qui ont été touchés de près et ceux qui ont vu ça de loin. Et à Montpellier, ils ont vu ça de près. Et c'est là où tu te rends compte au quotidien que ça peut t'arriver, tu peux avoir un gamin en pleine force de l'âge, une force de la nature, qui se retrouve du jour au lendemain intubé comme ça. Et là, tu touches du doigt justement ce que ça peut générer.
Et on l'a entendu effectivement avec son témoignage, que c'est quelque chose qu'ils a énormément touché.
On se retrouve dans quelques instants avec David Ayello, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, Eric Silvestro, Philippe Sansfourche d'RTL et Baptiste Durieux qui est là pour relayer le sentiment des auditeurs d'RTL. Nous allons parler de Marseille, évidemment, la cassure à Marseille avec le départ de Zubizarreta, d'Adrien Rabiot et puis de la reprise à huis clos en Allemagne. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Jusqu'à 20h avec Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, Denis. Philippe Sanfourche, David Aiello et Eric Silvestro d'RTL et puis Baptiste Durieux qui relaye les propos des auditeurs qui sont là sur les réseaux sociaux, alors directement avec nous, comme c'était le cas pour Ludovic, supporter montpellierain, qu'on va saluer. Ludovic, très bonne soirée et puis bonne saison prochaine, bonne fin de saison, je ne sais pas quoi te souhaiter, mais en tous les cas, la meilleure santé possible déjà en premier. Salut Ludovic, merci d'avoir été avec nous. On va parler donc de l'Allemagne. L'Allemagne, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, a recommencé à jouer aujourd'hui à huis clos avec des cartons. Il y a eu un 4-0 de Dortmund. Voilà votre sentiment sur la reprise en Allemagne.
Un petit peu dans le prolongement de la question d'Eric au président Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je n'ai ni pour ni contre l'arrêt du championnat de France, mais j'aurais juste voulu qu'on se donne un peu de temps peut-être. L'annonce d'Edouard Philippe, c'est le 28 avril, quand il annonce les conditions du déconfinement, où il dit que le championnat, les saisons ne pourront pas reprendre. Bon, on aurait peut-être pu se donner. Là, on est le 14 mai, 16 mai ? On est le 16 mai.
D'un autre côté, ça ne vous a pas échappé qu'il y ait une sorte d'appréhension générale un petit peu mondiale et européenne, et puis que vous jouez peut-être deux journées pour tout arrêter à bout de deux journées.
Je ne sais pas.
On ne sait pas ni ça ni le contraire.
La première journée, j'ai vu une équipe de Dortmund gagner 4-0. J'ai vu qu'il y a eu 5 matchs, dont un seul 0-0. J'ai vu quand même que ça joue au foot. Alors, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas le football que j'aime. C'est le huis clos. Je n'aime pas ça du tout. J'ai vu des joueurs plutôt en rythme. J'ai vu que le premier but de la re-saison qui redémarre, c'est Haaland qui le marque. Donc les stars qui étaient là avant sont là après.
Pas d'accord, mais bon, un PSG Monaco à huis clos, PSG Lyon à huis clos.
Mais comme l'a dit un jour Roxana Maracino, c'est-à-dire il y a deux mois, hein, c'était pas plus il y a 8 ans. Hein, le huis clos risque d'être la doctrine du sport. On ne sait pas avec ce virus combien de temps on en a. Peut-être qu'il y a le président du conseil scientifique allemand qui a dit que dans le pire des cas, ça pouvait durer 1 an et demi, le huis clos en Allemagne. Bon, ben voilà. Peut-être que jusqu'à fin 2021, on sera en huis clos. Ben, je ne sais pas.
Dominique Sartre, tu comprends ce que tu dis sur le fait qu'on aurait pu attendre, mais on aurait pu attendre si le gouvernement ne s'était pas positionné de manière aussi claire. Je veux dire, qu'est-ce que tu pouvais attendre après une phrase du Premier ministre qui t'explique devant la France entière que les championnats professionnels ne reprendront pas ? C'est explicite.
Oui, non, mais on aurait pu attendre. D'accord, il a dit ça. On dit c'est le 28 avril, on attend le 15 mai pour prendre une décision. Pas parce qu'il le dit qu'on est obligé de le faire dans l'heure.
Certes, mais sur le fait que ça ne reprenait pas, ça paraissait quand même assez clair.
D'accord, et mais on attend. Il y a bien une frontière entre la France et l'Allemagne, rassure-moi.
Il y a quand même un état sanitaire.
Ce qui me gêne, j'ai rien non plus contre l'arrêt du championnat, parce que évidemment le sanitaire c'est la priorité absolue, mais ce qui me gêne en effet c'est cette précipitation. Pourquoi ? Parce que le sport, quelque part, n'est pour moi pas traité comme les autres. Laurent Nicolas disait tout à l'heure, les restaurateurs pour l'instant sont toujours fermés. C'est vrai. Et d'ailleurs, on peut se poser la question quand on voit certaines circulations de population dans d'autres endroits, pourquoi les restaurants sont fermés, c'est un autre débat. Mais début juin, ou en tout cas courant juin ou courant juillet, ils espèrent, et je leur souhaite, les restaurateurs, de pouvoir ouvrir. Donc on ferait un point régulier toutes les semaines ou tous les 15 jours et on adapte en fonction de la situation. Sur le foot, on n'a rien adapté du tout. On a décidé dès le premier jour, niette jusqu'en septembre.
Je vous interromps juste deux secondes parce qu'on ne va pas aller jusqu'à 20h avec ça. On a Marseille à évoquer aussi. Philippe Sanfourche, RTL.
Il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que le foot, il n'y a pas que le foot, c'est tous les sports collectifs, les sports de contact, les sports où, je veux dire, quand tu es sur un corner au contact, que tu as 5-6 mecs qui sont dans un mètre carré, tu n'as pas ces situations-là dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc tu peux éventuellement reprendre la restauration avec des gens qui sont à une certaine distance. Quand tu mets des joueurs les uns sur les autres pendant 90 minutes, tu prends forcément plus de risques.
Non mais je fais de la démagogie, mais si tu as pris le RER à 19h l'autre soir, je peux te dire que t'as des contacts autant que dans une surface de réparation. Donc c'est de la démagogie. On sait que dans les transports c'est compliqué.
Bien sûr. Mais si tu rouvres, ils avaient calculé que pour les 10 journées qui restaient, ça, c'était déplacé 6 000 à 7 000 personnes pendant 10 journées. Je suis désolé. Même dans le métro actuellement où il y a très peu de monde à Paris, il y a plus que 6 à 7 000 personnes.
Et bien,
c'est là où je suis pas d'accord avec Eric. C'est pas qu'ils ont, il y a pas de culture française. C'est qu'au contraire, ils sont servis du sport pour envoyer un message. Ils ont pris le football pour dire ça reprendra pas. Les hommes politiques ont pris en otage le football en disant on va dire aux Français que ça ne reprend pas devant la députation, devant l'Assemblée nationale. Comme ça, les gens vont comprendre que c'est sérieux ce qu'on propose.
Mais ça, tu peux le faire en France avec le foot. Tu le fais pas dans un
notre pays. Va faire ça en Italie, t'as tout le monde dans la rue, je te dis tout de suite.
Oui, mais c'est pas aussi certain que ça, Eric, parce qu'on s'aperçoit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'Allemagne reprend, parce que c'est le seul pays qui, techniquement, d'un point de vue sanitaire et politique, peut reprendre, parce que c'est un pays qui a été moins impacté sur le plan tout simplement sanitaire et des lits de réanimation qui n'ont pas été en surabondance. Et parce qu'il y a une politique de tests massive qui a été mise en place dès le départ, et pour l'ensemble de la population. Parce qu'aujourd'hui, les débats, ils existent. L'Espagne, l'Italie sont des pays passionnés de foot. L'Angleterre, pareil. Mais les débats politiques existent parce que tu as des régions entières où il n'y a pas accès à ces tests.
Mais ils n'ont rien
Mais ils n'ont pas pris de décision.
C'est bien la raison pour. Oui, mais sauf qu'on aurait pu imaginer qu'une fois que tu remets les joueurs en activité sur les entraînements collectifs, comme c'est le cas dès lundi en Italie, comme c'est le cas depuis une semaine en Espagne, comme ça va l'être en Angleterre. Mais la reprise des championnats, c'est autre chose parce que là, le protocole que tu mets en place, c'est 25, 30, 35 000 tests et ça, tu les as pas dans ces pays-là. T'as pas la capacité de le faire. En Allemagne, tu peux. Dans tous les autres pays, tu peux pas. Donc, quelle est là la différence?
Oui, mais tu vois, j'écoutais juste cet après-midi Bichente Lizarazu, notre consultant aussi, qui disait, je vois pas pourquoi les footballeurs professionnels, c'est leur métier. Pourquoi à un moment on ne peut pas essayer qu'ils reprennent leur activité? Ça veut pas dire qu'on va y arriver et que ça sera faisable. Oui, mais il y a pas de raison qu'on l'interdise.
Les footballeurs professionnels, protocole sanitaire qui n'est pas du tout le même que dans les autres.
Les footballeurs professionnels, après le match ou après, ils rentrent bien chez eux. Ils vont côtoyer leurs femmes qui ont vu peut-être leurs copines, puis leurs enfants qui ont vu leurs copains.
C'est pareil, vous rentrez chez vous après aussi.
Oui, d'accord, mais sauf que moi j'ai été confiné pendant des mois et des mois.
Mais le footballeur aussi.
Oui, mais le footballeur là il sort.
Sur un terrain.
Mais vous aussi vous sortez.
Mais tu colles personne.
Je suis pas en train de jouer dans une surface de réparation sur un corner.
Mais tous les gens qui retournent bosser, vous avez vu les images dans les centres commerciaux, tout ça, les gens se croisent.
Alors là, on va parler de foot, on va pas parler de politique parce que là, on est en train de
soit tout le monde ne peut pas se croiser, soit personne. Enfin, je vois pas pourquoi le footballeur aurait moins le droit.
Moi, je dis pas le contraire. Alors, on va, Baptiste Durieux, on va relayer ce que pensent les auditeurs d'RTL sur les réseaux sociaux par rapport à ça. L'Allemagne, la reprise.
Absolument. On va commencer par le compte Twitter Pied Carré qui nous dit « Bienvenue en 2020 où les joueurs n'ont pas le droit de célébrer un but ensemble mais sont tous collés au marquage pour faire un mur. » Message de Mickaël « Rien que pour cet extérieur du pied gauche de Rafael Guerrero, ça valait le coup de relancer la Bundesliga. » Message de Nicolas « Regarder un match à huis clos, c'est comme boire une bière sans alcool. C'est marrant mais c'est frustrant. » Et puis la réaction de Étienne Didot, tiens, sur Twitter, ancien joueur de Guingamp notamment, c'est vraiment ridicule. Notre championnat a bien fait de ne pas s'acharner à reprendre.
Voilà, je vous rappelle que le sondage Groupama Odoxa RTL disait que un peu plus de 75% des Français trouvaient que cette reprise était prématurée. On va se retrouver après la pub pour parler de l'Olympique de Marseille qui est en crise, même si Franck McCourt, l'actionnaire de l'Olympique de Marseille, vient de dire à l'AFP qu'il veut non pas garder Villas-Boas mais le prolonger. On reviendra sur toutes ces informations dans quelques instants sur RTL. À tout de suite.
Denis Balbir sur RTL. On refait le match. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h ensemble avec Dominique Sévrac du Parisien Aujourd'hui en France, Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL et David Ayello et Baptiste Durieux qui relayent les propos des auditeurs sur les réseaux sociaux. Et même nous les entendrons tout à l'heure avec trois supporters de Marseille. Nous allons évoquer Marseille, messieurs, Marseille en crise. Denis Zubizarreta est parti. Villas-Boas devrait le suivre, mais est-ce que c'est de la façade? En tous les cas, Franck McCourt à l'AFP vient de dire qu'il voulait le retenir. Tout comme c'était le propos un petit peu de Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, mais ça va pas très très bien. Info RTL. Steve Mandanda avec un autre joueur, un coéquipier qui serait étranger, n'aurait pas voulu poser avec le nouveau maillot de l'OM sur la photo. Ça va mal, Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui
en
France.
Oui, et peut-être que les ennuis ne sont pas terminés parce qu'il y aura une prochaine Ligue des Champions un jour, la saison 2020-2021. Et il n'est pas sûr que Marseille puisse y participer. Comme il a des comptes catastrophiques, énormément de pertes, une masse salariale trop importante par rapport à ses recettes parce que héritage de Rudy Garcia, on ne va peut-être pas refaire le débat. Mais en tout cas, et puis Jacques-Henri Hérault qui se fait bananer parce qu'il ne connaît pas bien le football. Donc il y a des contrats mirobolants, il y a des pertes et peut-être que l'UEFA dira bah, écoutez, vous ne pouvez pas participer à la Ligue des Champions. Donc le pire est peut-être devant et on va perdre dans les prochains jours, dans les prochains mois un super entraîneur qui sera resté moins d'un an à force des choses parce que la saison n'est pas allée au bout et qui sera à la fois lui relancé, donner une super image au football français. Voilà, donc parfois il y a un débat, les entraîneurs étrangers, les entraîneurs français. Celui-là était bien.
L'UEFA sanctionnerait Marseille, pourquoi Marseille et pas d'autres clubs? Parce qu'il y a d'autres clubs endettés.
Il y a d'autres clubs endettés en Europe.
Oui, mais
ils n'ont pas tous 90 millions d'euros de pertes par an.
Philippe Sanfourche, Chertel.
tout simplement. Ce qui est certain, c'est que ça date pas d'hier, les mises en garde de l'UEFA et des instances du fair play financier. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, il y a une date qui se rapproche, c'est le mois de juin, où il pourrait y avoir des sanctions. Et même si à Marseille, on fait mine de croire que les sanctions seraient pour l'année suivante, il y a eu des cas précédemment qui nous ont démontré que ça pouvait tout à fait être pour l'année à venir. Et donc, si l'Olympique de Marseille continue à accumuler des pertes et en ne montrant pas une inflexion sur sa politique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut donner des gages à l'UEFA, il faut montrer qu'on a compris le message et que même si pour l'instant, on perd encore de l'argent, on en perd moins et qu'on met des choses en place pour en perdre moins la saison suivante. Donc, si ça se précipite, le départ de Zubizarreta et peut-être tout le reste, c'est-à-dire Villas-Boas et pourquoi pas des joueurs, parce que l'information que vous donniez, l'information RTL comme quoi Steve Mandanda n'a pas souhaité, elle n'a pas été démentie. C'est-à-dire que la direction de l'OM a été mise au courant qu'on sortait cette information et ils n'ont pas souhaité la démentir. Quelque part, est-ce que ça ne les arrangerait pas aussi, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que ça ne les arrangerait pas aussi que des joueurs avec une grosse masse salariale comme Steve Mandanda s'en aillent?
Contrairement à ce qu'a dit le président, tout le monde est à vendre.
Dominique, c'est vrai.
Puisque c'est le serpent qui se mord la queue. Les pertes, il va falloir les combler. Il n'y a qu'une seule manière de les combler. On va pas trop... Certes, l'argent de Media Pro, le nouveau diffuseur, va arriver, mais il y a une autre manière de les combler que tout le monde connaît. C'est le trading, c'est-à-dire la vente de joueurs. Ouais. Et donc, à l'OM, tout le monde est à vendre.
Sauf que la différence, c'est qu'un joueur comme Mandanda ou un joueur comme Thauvin, à mon avis, n'ont aucun intérêt à partir et n'ont pas du tout envie de partir. Pourquoi ? Parce que Mandanda, bon, bah, va te relancer dans un gros club maintenant, aujourd'hui, c'est quand même compliqué. En plus, il est revenu quand même aussi avec un bon salaire. Thauvin, il sort d'une année où il n'a pas du tout joué. Marseille va jouer la Ligue des Champions. T'as quand même tout intérêt à le jouer dans un club que tu aimes, la Ligue des Champions, où tu es en plus attendu avec impatience, parce que Thauvin, où est-ce qu'il va rebondir demain avec un salaire comme ça aussi ? Enfin, je veux dire, pour ces joueurs-là.
Il n'y a pas que le salaire.
Il n'y a pas que le salaire. L'argent est important dans le foot,
mais il y a le sportif. Tu parles de deux joueurs qui, à des âges et pour des raisons différentes, sont très attachés aussi à l'équipe de France. Tu as remarqué que l'Euro a été reporté. Oui. Il y a une saison qui va être déterminante pour savoir qui aura sa place dans ce groupe.
Donc, sportivement, ils doivent rester à Marseille.
Bah, pas forcément.
Ah bon ?
Parce que s'ils se retrouvent en bisbille avec la direction, qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive, que tu as montré des signes que tu étais avec celui qui est parti, tu pars pas avec tous les gages de sécurité pour pouvoir être dans les petits papiers.
Mais tu es dans un club qui est en France important, qui joue la Ligue des Champions. Mandanda et Thauvin, je pense qu'en termes de titularisation, il n'y a pas non plus grande concurrence. Leur place ne risque pas quand même d'être mise en cause, surtout si on laisse partir d'autres joueurs et qu'on n'a pas d'argent pour en acheter. Donc je pense que tu ne prends pas de risque. Tu pars dans un club moyen en Espagne ou en Angleterre, tu peux disparaître complètement. En plus, les deux l'ont déjà vécu. Est-ce qu'ils vont le refaire une deuxième fois ?
Le problème, David, est-ce que c'est pas, on vend les joueurs, moi, très bien pour calmer un petit peu le déficit, mais après, comment on fait pour jouer la Ligue des Champions sans joueurs ? David,
c'est pour ça qu'il part, parce qu'il y a plus de joueurs.
Je pense qu'effectivement la situation est extrêmement compliquée. Ce que je trouve en plus extrêmement délicat dans la situation actuelle, c'est que la bonne saison sportive de Marseille, quelque part, a masqué un petit peu tout ce qui se passait en coulisses, même si quand on lisait un petit peu entre les lignes, que ce soit avec l'interview d'André Villas-Boas il y a quelques mois maintenant, je crois que c'était en janvier, on comprenait quand même entre les lignes que son avenir à l'OM n'était pas cousu de fil blanc. On comprenait plus le départ manqué de Zubizarreta à l'automne.
Et l'arrivée d'Aldridge aussi.
Et l'arrivée d'Aldridge, effectivement, plus Cook également à la tête du club. On comprenait qu'en coulisses, il se passait des choses, alors que sur le terrain, tout se passait bien. Quand on met tout ça ensemble, j'ai quand même envie de me dire que la façon dont est géré aujourd'hui l'OM, à savoir avec un actionnaire américain qui ne connaît absolument rien au football, qui est à l'autre bout du monde.
Qui ne veut pas rajouter d'argent.
Qui ne veut pas d'argent. C'est sûr, tout ça. Ça, c'est son problème. Mais je veux dire, on touche quand même peut-être des limites à chaque fois de ces modèles-là, où on a un actionnaire très fort. Et c'est bien pour l'OM, quelque part, qu'il soit venu avec tout cet argent, parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, il a mis plus de 300 millions dans le club. Mais on touche peut-être à la limite du modèle. C'est que, certes, il a mis beaucoup d'argent, mais ensuite, derrière, quel est le projet ?
Non, mais le problème, c'est qu'il a mis beaucoup d'argent, mais il l'a mal mis. C'est pas sa faute, comme tu dis, il connaît pas grand chose. Il a mis aussi beaucoup de gens qui connaissaient pas non plus grand chose. On est allé payer des mecs, c'est des surpayés, avec des salaires énormes.
500 000.
Oui, mais pas que Strootman.
Oh bah c'est un exemple quand même assez frappant. Non, quoi.
C'est un exemple totalement frappant, mais il n'y a pas que lui. On n'a pas eu d'idée dans la recherche de joueurs. On n'est pas allé chercher
un gros chèque pour le départ de Rudy Garcia.
Parce que Rudy Garcia, il faisait des transferts avec ses réseaux. Voilà, c'est vrai.
On a bien gaspillé l'argent, c'est ce que je dis.
Passé par lui, et voilà. Et donc, on disait oui tout parce que il n'avait pas une autorité suffisante, Jacques-Henri Hérault, pour s'opposer à Rudy Garcia.
On peut revenir aussi sur Zubizarreta quand même. Tu dis on n'a pas fait de bons coups, mais Zubizarreta,
très peu.
Je suis d'accord avec toi, mais Zubizarreta il était pris pour ça quand même. Je sais pas, c'est quelqu'un qui était au Barça, qui avait une certaine
aura. Moi, ce qui m'étonne, c'est
il a aussi proposé des joueurs qui ont été refusés.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on est, enfin, beaucoup de gens sont frappés par le départ de Zubizarreta. On a l'impression que c'est une catastrophe qui part, et c'en est certainement une. Mais qu'est-ce qu'a fait
Zubizarreta?
D'accord, mais moi je me suis souviens, je me souviens d'une époque où on se disait mais qu'est-ce qu'il fait là, il fait rien. Mais parce que j'ai bien entendu ça ou j'ai rêvé.
Non, Garcia l'empêchait de travailler parce qu'il a, il avait son réseau, il voulait pas travailler avec le directeur sportif. D'accord. C'est comme si Thomas Tuchel refusait les pistes de Leonardo.
Il a été faible Zubizarreta. Il a accepté cette situation.
Il a accepté cette situation, mais parce que l'homme fort à ce moment-là, c'était Rudy Garcia.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu faire, il aurait pu, en tout cas, c'est pas sa personnalité visiblement, mais il aurait pu agir pour que ça se passe pas comme ça.
À Marseille, j'ai vécu des guerres à Nigo, Deschamps, de directeur sportif et d'entraîneur, c'est pas bon non plus. Hein. Quand vous rentrez frontalement en collision avec l'entraîneur, c'est pas toujours très bon.
C'est pas bon ni pour lui non plus, finalement. Parce qu'au final, tout lui revient dessus.
Bah, le schéma, c'est l'entraîneur qui dit au directeur sportif, voilà, moi j'ai besoin d'un latéral droit et d'un attaquant, maintenant tu te dérouilles. L'attaquant, il faut qu'il soit comme ça, bon, dos au but, bon sur, avec le ballon, bon en remise, et après tu trouves le joueur qui correspond.
Un supporter de l'OM est avec nous, Brice, bonsoir.
Allez, bonsoir messieurs, alors... j'en peux plus. Hein.
Salut Brice.
J'en peux plus de vous entendre mes poupons, aïe. Mais l'OM c'est la polémique, j'en peux plus.
C'est pas nous qui faisons la polémique, Brice.
Le problème de l'OM, je vais vous expliquer une chose.
Oui. Allez-y,
déjà, c'est une année oui, une année non. Une année oui, une année non. L'année dernière, David Garcia, c'était la pagaille. L'année d'avant, on était en Europa League. Après, le problème, il vient du président. Ce président est roux, on n'en peut plus. Il faut que ça en aille. Et l'autre joueur de baseball, là, David, il faut que ça en aille aussi.
Le joueur de baseball, il a mis 300 millions d'euros dans le club. Donc,
Je suis d'accord avec vous, il a mis 300 millions d'euros, mais les Américains, ils ne savent pas ce que c'est le soccer.
Ah oui,
il faut mettre des présidents du Moyen-Orient.
Parce que eux savent.
Ah, ça y est, c'est
mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux?
Eux savent ce que c'est le football.
Qu'est-ce qu'on va faire avec lui?
Non, mais.
Mais bien sûr, ils connaissent le football. Eux, ils mettent des millions. Pour gagner la Ligue des Champions, les projets de mes deux, là. Ouais. Le projet qu'il a voulu faire, là.
Moi, je suis un club.
Il a dit, je vais mettre des millions.
Non, mais Brice, est-ce que. Bon, maintenant, on a bien compris depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, que Jacques-Henri Hérault, c'était la tête de Turc.
C'est une marionnette.
Voilà, c'était la tête de Turc des supporters de l'OM.
Il est là pour appliquer la politique.
Vous n'avez pas vu que la semaine dernière, il dit quelque chose, le lendemain, il dit autre chose. Il nous rend fou, c'est un président. Il sait même pas s'il va se voir, s'il doit rester ou pas. Mais vous rendez compte?
Mais
il va nous rendre fou à chaque fois.
Brice, bien sûr qu'il le sait qu'il doit rester. Sauf que le problème, c'est qu'il ne peut pas rester parce qu'il sait que son entraîneur ne restera pas si on lui donne pas les joueurs, que l'OM ne peut pas lui donner parce qu'il n'y a pas l'argent. Il le sait très bien, Hérault.
Écoute-moi, le pire de tout,
Brice, supporter de l'OM.
Le pire de tout, c'est quand il dit, même Villavoie, il a des torts. Parce que je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il a avec Anthony Bizarreta? Qu'est-ce qu'il a avec lui, frère? Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Anthony, reste pas, je m'en vais. Eh bien, casse-toi. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Tu vas pas nous casser les couilles, non, toute la semaine, non?
Non, mais.
Qu'est-ce que c'est, ce bordel avec lui? Alors, lui aussi, il casse les couilles.
En employant peut-être d'autres termes, moi, j'irais un petit peu dans le sens aussi de Brice. Effectivement, et moi, je suis content d'entendre un supporter marseillais qui n'est pas aveugle sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le Christ, André Villas-Boas. Alors, c'est clair qu'il a fait sportivement une très, très belle saison, mais il ne faut pas nous prendre pour des jambons. André Villas-Boas, quand il est arrivé à Marseille, il savait très bien quelle était la situation financière du club et quelle était la politique de l'actionnaire pour les mois à venir. Il sait aussi ce qui se passe avec le fair play financier. Donc quand il fait ses sorties au mois de janvier en disant « oui », en fait, il prépare déjà sa sortie. Sûr. Il est venu pour se relancer, pour montrer que dans un club, et il l'a fait, il a réussi. Mais par contre, s'embarquer l'année prochaine en Ligue des Champions avec l'équipe qu'il a là, il sait que c'est aller au casse-pied. Donc en fait, il a préparé sa sortie.
C'est pas forcément qu'il prépare sa sortie,
mais si, il a préparé sa sortie.
Non, mais il se laisse une double possibilité. En effet, soit il prépare sa sortie et il le fait dès janvier quand l'OM est deuxième du championnat parce qu'il sait très bien qu'il finira peut-être pas deuxième du championnat et qu'il y a un peu de surréussite dans la première partie de saison. Donc il attend pas le mois de mai pour le faire parce qu'il dit si on dégringole au classement, je pourrais plus le faire. Donc il le fait au moment où il est très fort déjà. Donc il se garde cette possibilité. Secondo, soit il prépare son départ, soit, quelque part, il demande des moyens pour continuer l'année prochaine avec une meilleure équipe. Donc lui, au moment où il le fait, il est gagnant-gagnant. Soit on me donne les moyens et dans ces cas, je reste et je fais une bonne saison. Soit on me donne pas les moyens, je m'en vais.
Il
n'y
a pas d'alternative.
On se retrouve dans quelques secondes. Brice, ne quitte pas. On est avec toi. Le temps de la pause, tu vas pouvoir t'exprimer, évidemment. Nous sommes avec toi jusqu'à 20h, peut-être pas toi, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir, évidemment. Baptiste Durieux est là pour justement les sélectionner. Nous sommes avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, très en forme, et David Aiello. Jusqu'à 20h, nous allons parler aussi d'Adrien Rabiot en fin d'émission. Ça va être très intéressant. Il est à Turin, mais peut-être pas pour longtemps. À tout de suite. Sur RTL.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Voilà, je vais vous lire jusqu'à 20h. Je vais vous lire le communiqué très, très rapidement de ce que Franck McCourt a dit à l'AFP aujourd'hui concernant l'entraîneur portugais Andrés Villas-Boas. Il s'est entretenu avec lui aujourd'hui. Il lui a dit qu'il était parfaitement aligné avec son président. pour proposer au coach de continuer à être le coach de l'OM au-delà du terme de son contrat actuel. Toutefois, si l'entraîneur portugais prenait la décision de quitter Marseille pour des raisons qui lui sont propres, Franck McCourt lui souhaiterait le meilleur pour son futur. Donc j'aimerais bien que tu restes, mais finalement, si tu y vas, c'est
voilà. Bien. La ficelle est énorme, mais en même temps, il est dans son rôle. Franck McCourt, il veut essayer de pousser Villas-Boas à démissionner pour économiser de l'argent et pas lui filer un an de contrat ou 9 mois de salaire. Et puis il dit, bah, lui, en plus, évidemment, sportivement, il a envie de le garder. Donc on peut évidemment que la ficelle est trop grosse et qu'on n'y croit pas une seconde, mais tous les présidents auraient fait la même chose à sa place.
Et l'autre ficelle, c'est que Franck McCourt a encore réaffirmé son attachement à l'OM et son refus de vendre.
C'est comme un président qui confirme un entraîneur.
Ouais, c'est pas ça.
Brice, tu veux vendre ta maison, tu dis qu'elle n'est pas à vendre.
Brice, supporter de l'OM, est avec nous. Et avant, Baptiste Durieux, il y a des réactions sur les réseaux sociaux par rapport à Marseille, bien sûr.
Énormément, toujours, notamment David. Ça fait depuis la Révolution française qu'on n'était pas en Ligue des Champions. On devait être heureux et préparer tranquillement la prochaine saison. Mais non, c'est toujours le bordel absolu dans ce club. Vis ma vie de supporter marseillais. Le message de Loïc aussi, j'ai honte d'avoir un tel président dans un si grand club que l'Olympique de Marseille. On mérite vraiment pas ça. Et puis le message de John qui est comme les deux premiers. Vous pouvez ramener qui vous voulez, Klopp, Guardiola, Zidane ou associé Ronaldo à Germain. Ça sera toujours un pansement sur une jambe de bois. Héros doit partir pour la survie du club. Pire président de l'histoire de l'OM. Et il rajoute sûrement le pire président de l'histoire du foot français.
J'aime beaucoup Benedetto, mais si Cristiano Ronaldo vient avec Germain, ça peut être sympa quand même. Hein.
David Aiello.
Non, mais moi je voudrais revenir quand même sur la position d'AVB, d'André Villas-Boas, sur cette histoire de lier son destin à celui de Zubizarreta.
Zubizarreta, ouais.
Mais où est-ce que vous avez eu ça? Est-ce que dans votre carrière, Denis, vous, ça vous arrivait de dire, bah, si mon meilleur ami, à l'époque, vous étiez à Canal, je ne sais trop, ou je ne sais pas, bah, si lui il s'en va, moi j'arrête, je m'en vais.
Alors, à Canal, il n'y a pas de meilleur ami.
Excellent, tous vos amis sont à M6 désormais, effectivement. Mais moi, je ne comprends pas cette position, et effectivement, j'alerte un petit peu les supporters de l'OM là-dessus, pour ceux qui seraient encore un petit peu dans le rêve de la belle saison sportive, etc. Posez-vous la question quand même de qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'un entraîneur qui se dit quelque part quand même attaché au projet, à la ville, aux supporters, lie son avenir à la présence d'un ami de 6 mois?
Non, mais l'histoire, en fait, je pense que Philippe sera d'accord. L'idée, en fait, c'est comme tout le monde sait qu'il n'y a pas d'argent et qu'il y a ce déficit énorme, personne n'a vraiment envie de rester pour être ridicule en Ligue des Champions.
Surtout que l'avenir. L'équipe qu'il a, on va lui vendre.
Dominique Cérac.
Et donc, et si encore il y avait.
Dans ce cas-là, il le dit clairement, j'ai pas d'effectif, je m'en vais.
Mais il n'a pas besoin de le dire, tout le monde le voit.
Bah non, mais c'est pour ça qu'en janvier, il a fait un appel du pied sur les moyens.
Vous n'êtes pas surpris d'ailleurs. Parce que par le départ de Villas-Boas, là, il n'est pas effectif le départ, d'ailleurs. Mais quand ça va arriver la semaine prochaine.
Moi, je suis assez d'accord avec Philippe sur
le
fait que Villas-Boas a un petit peu joué sur le tremplin Marseille, parce qu'on rappelle quand même qu'il était au chômage.
Mais c'est une bonne guerre, quand même, non?
Et s'il avait fini
15e. Il a mis Marseille 2e ou pas?
S'il avait fini 15e, vous diriez ça?
Ben non, mais il ne l'aurait pas fait s'il avait fini
15e.
Il a fait le job. Brice est avec nous, on va conclure avec toi, Brice, parce qu'après, il y a Florian et Frédéric, également supporter de l'OM.
Il a eu raison de dire ça. En vérité, mais comment ça se fait que cet entraîneur, il n'en peut plus pour Andoni Zubizarreta? S'il est parti, il part, au revoir et merci. Qu'est-ce qu'on va faire? Si Andoni part, il dit je pars. Mais qu'est-ce que c'est cet entraîneur? Mais qu'est-ce qu'il lui a fait, Andoni Zubizarreta, pour que ça se passe comme ça?
Bah, c'est son ami de longue date.
Non, parce que Zubizarreta, il est aussi le symbole d'une politique. C'est-à-dire que Zubizarreta, on sait très bien, et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres recrutements concernant la cellule pour la vente, c'est qu'on sait que Zubizarreta, il n'est pas là pour vendre des joueurs, il a horreur de ça, il ne sait pas le faire. Donc, dans la mesure où tu lui demandes de changer complètement sa façon de faire et de vendre plutôt que d'acheter, eh ben tu te sépares puisque c'est pas son profil. Donc en fait, quelque part, André Villas-Boas ne veut pas valider ce changement de politique. Donc il est en rupture avec la politique du club. Donc c'est normal qu'il s'écarte et qu'il s'efface de lui-même.
Brice, merci d'avoir.
Excusez-moi, je peux faire une petite dédicace avant de partir?
Rapidement, Brice.
Ah, si sous ma petite roquette, je t'embrasse, très fou.
Voilà, c'est
une
fait.
Je vous embrasse. Ciao, c'est les gars, merci beaucoup.
Très belle épée à Marseille. Florian est avec nous, supporter de l'OM aussi.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Alors je vais vous rassurer, je vais être beaucoup plus calme que mon prédécesseur.
Hein. Ouais, mais il était...
pour la bonne et simple raison, mais que j'ai même plus la force de m'énerver ou d'être révolté. Voilà, je suis fataliste,
triste, déçu,
désabusé.
Ouais.
Parce que moi, hier, j'ai écouté l'intervention de Jacques-Henri Hérault chez vos confrères de RMC. Et moi, ce qui m'a vraiment touché, et limite, c'est mal au cœur, c'est qu'ils mettent le trading au cœur du projet. Alors, je veux bien entendre qu'il y ait des pertes, qu'il y ait un déficit, que l'OM ait besoin de vendre, mais de faire du trading la phase 2 de ton projet, ça passe pas. Je veux dire, l'OM, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une machine à faire du business. On parle quand même du plus grand club français, champion d'Europe, finaliste à 5 reprises de finale européenne.
Florian, le problème n'est pas là, c'est pas le passé. Le problème, c'est que pour faire du trading, il faut avoir les jeunes pour faire du trading.
Mais on les a pas.
L'OM, à part peut-être Camara,
Florian,
et un degré moindre qu'à l'Etacar, et encore, il n'y a pas de quoi faire du trading à Marseille.
Mais de toute façon, Florian, c'est le modèle du championnat français. L'année dernière, en 2019, 19 clubs sur 20 ont équilibré leur compte avec le trading, c'est-à-dire avec le mercato. À part le Paris Saint-Germain, les 19 autres clubs de Ligue 1 ont équilibré leur compte avec le mercato.
800 millions d'euros de vente.
Sinon, ils étaient tous en déficit. Le modèle du championnat de France, c'est de former pour les autres championnats.
Oui, mais Dominique, il y a des clubs qui ne s'en cachent pas. Lille a pris des jeunes pour faire du trading. Monaco a fait du trading pendant des années. La politique est clairement établie à l'avance.
Mais
Marseille n'a pas fait ça. Marseille a pris des joueurs de 30 ans ou 32 ans.
En même temps.
Et Marseille n'a pas misé sur du trading. Marseille a misé sur du très court terme pour pouvoir revenir un petit peu en haut. Et donc, quand tu mises sur du très court terme, tu peux pas, au bout d'un an ou deux, dire je fais du trading puisque tu n'as pas les jeunes pour faire du trading.
Florian, est-ce que les supporters de l'OM, peut-être pas toi ou pas vous, est-ce qu'ils ne font pas une fixation sur le président Jacques-Henri Hérault, et puis finalement se dire un petit peu comme beaucoup se posent cette question, pourquoi Villas-Boas lit son destin à Zubizarreta, Florian ?
Alors là, je vous avoue que je me suis pas posé la question. C'est vrai que c'est quand même étonnant parce que
c'est bien beau de tomber sur le président. Moi, je veux bien tout écouter sur Jacques-Henri Hérault, que si, oui, que ça, etc. Mais en faire un bouc émissaire parce que Zubizarreta s'en va, on va pas dire non plus
que
Zubizarreta...
Son remplaçant sera peut-être meilleur que Zubizarreta. Hein.
Ouais, parce que Zubizarreta, même s'il y avait Rudy Garcia dans les pattes, il a pas non plus trouvé le Messi.
Enfin, les supporters de l'OM, ils ont pas attendu le départ de Zubizarreta pour s'en prendre un héros. Hein. Enfin,
Moi, je ne suis pas déçu du départ d'Andoni Zubizarreta, évidemment. Alors, à part le dernier mercato où il nous a fait venir Rongier et Alvaro, qui ont été très performants, ça a été très limité. On parlait aussi de son problème de ne pas savoir vendre. Non, pourquoi je suis déçu, c'est qu'on sait depuis janvier que l'avenir de Villas-Boas est lié à celui d'Andoni Zubizarreta. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Et c'est vrai que cette réflexion de Villas-Boas au mois de janvier, on n'a peut-être pas porté cas, mais aujourd'hui, on se dit effectivement pourquoi il a lié son avenir à celui de Zubizarreta. Et pour être franc avec vous, je n'ai pas la réponse. Alors, vous avez donné quelques arguments en disant qu'il n'aurait pas l'effectif souhaité la saison prochaine. C'est pour ça qu'il a cherché peut-être une excuse, sachant que Zubizarreta était sur la corde raide. Après, voilà.
Mais c'est aussi important d'avoir un directeur sportif avec lequel on s'entend. Deschamps, Nigo, c'était l'enfer. Tourelle, quand il a vu Leonardo arriver, l'année dernière, il était en guerre avec Antero Henrique.
Tu peux t'entendre, mais t'es pas obligé de partir et de le suivre s'il s'en va.
Et tu dois d'autant plus t'entendre quand il n'y a pas beaucoup de sous.
Et puis tu peux demander à ce que ça soit
quelqu'un.
Non, juste pour répondre un petit peu à Florian sur le trading, aller dans le prolongement de ce que disait Dominique. Le trading, en soi, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Je veux dire, ça dépend. Est-ce que c'est une finalité ou est-ce que c'est un moyen? Parce que le trading pour installer le club dans la durée et lui permettre quelque part de poser des bases financières solides sur la durée, c'est pas du jour au lendemain qu'on va trouver comme ça du côté de l'OM 150 millions si l'actionnaire veut pas. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant on balance ce concept de trading, le trading. Ok, à Monaco, ils ont fait 800 millions de bénéfices et ensuite on a mis la clé sous la porte quasiment. Mais c'est pas forcément un mauvais projet. En tout cas, je veux dire, si c'est intégré au modèle économique
du club.
C'est le projet
de Lille. Avec Luis Campos.
La vocation de l'OM, c'est pas d'être un club tremplin.
Mais
la vocation du championnat de France, c'est d'avoir le Paris Saint-Germain et l'OM au top. Oui, c'est comme ça que tu vendras la Ligue 1. C'est comme ça. C'est le seul club qui a le potentiel, qui est logiquement, naturellement, l'opposant direct du Paris Saint-Germain.
Oui, mais il y a pas
d'argent. On a besoin. On a besoin d'un rachat de l'OM.
Merci.
On a besoin d'un rachat de l'OM avec
quelques secondes, s'il vous plaît. Merci. Dans quelques secondes, on conclura sur l'Olympique de Marseille.
Vrai,
merci
ça.
À Florian. Et on se retrouvera avec Frédéric, autre supporter de Marseille, avant d'évoquer
ils
le cas
chaud.
Adrien Rabiot. Mais ça me dérange pas qu'il soit chaud. Mais obéissant quand même un petit peu. Merci beaucoup. À tout de suite sur RTL jusqu'à 20h.
Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
RTL, on refait le match.
Avec Denis Balbir.
Merci à Damien Béchaud et Florian Thiennot qui sont là à la réalisation de cette émission. On refait le match avec David Aiello, Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, Philippe Sanfourche et Eric Silvestro d'RTL. Nous sommes avec Frédéric, supporter de l'Olympique de Marseille. 3 minutes de conclusion sur l'OM. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir.
Votre sentiment
sur
tout ça?
Alors moi, mon sentiment, c'est
on est en train de... Bon, tout le monde parle de héros, héros, héros. Mais héros, Depilard en lui-même, sur quatre années, une fois, on est en finale de la Coupe de l'UEFA, et une fois, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Il y a eu pire, hein, moi je vous garantis, hein, sur les anciens présidents. Par contre, moi, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à Marseille, on n'a pas vocation à former des joueurs pour les revendre. Voilà. Moi, je suis désolé, avoir des joueurs qui sont là, qui sont en devenir, mais qui vont exploser ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ce soit l'OM.
Mais quand tu as 90 millions d'euros de déficit, tu fais comment ?
Mais on est d'accord. Bon, parce qu'on a laissé, justement, des dettes s'accumuler. D'accord. Mais il faut repartir sainement. Mais avoir des joueurs de 27, 28 ans, mais qui ont envie de s'installer à Marseille, une certaine qualité, même si ce n'est pas des pépites, parce que maintenant, la grande mode, c'est la pépite. Hein. Ouais. Un joueur, il fait 3-4 matchs en Ligue 1 et on croit qu'on détient le joueur comme avant 70 millions, 90 millions. C'est n'importe quoi. Moi, le joueur. Avoir de très. Auxerre à l'époque faisait ça. Auxerre formait des joueurs et dès qu'ils étaient à un bon niveau, ils les vendaient à Marseille à l'époque. Hein. Mais moi, jamais j'aurais été supporter d'un club comme ça. Moi, je veux que les joueurs qu'on prenne à Marseille soient des joueurs finis, plus ou moins confirmés. On n'aura pas de superstars, mais des joueurs quand même d'un certain niveau qu'on ne va pas revendre au bout de 2 ans, mais qui sont un peu bons. On n'aura jamais une équipe qui tiendra la route. Pardon.
Merci Frédéric, supporter de l'OM. On souhaite bon courage à tous les supporters de Marseille. On va surveiller évidemment la situation à l'OM. Un mot de conclusion justement sur Marseille. Dominique Servat, comment vous voyez l'avenir, même si vous n'êtes pas Madame Irma.
Franchement, sans anti-marseillais primaire, mal. Je le vois mal l'avenir, d'accord. Parce que je trouve que c'est sombre. Le président n'est pas bon, l'actionnaire ne s'intéresse pas au foot, les comptes sont plombés. Je ne vois pas un bel avenir. L'entraîneur part.
Sauf revente. Sauf si revente.
Voilà,
ah
sauf
oui, si
David Ayello.
S'ils vendent à un Saoudien, oui.
Ouais. Non, mais il y a quand même, effectivement, on en a parlé au début, la menace du fair play financier qui sera pour le coup. Alors là, ça serait terrible.
Le coup de grâce. Ouais. Eric Silvestro.
Il faut espérer une vente, en effet, ou que quelques joueurs, quand même, l'OM, ça représente quelque chose. Il y a la Ligue des Champions, ils pourront peut-être attirer 2-3 mecs pour avoir une équipe correcte l'année prochaine.
Alors, 5 dernières minutes consacrées à Adrien Rabiot. Il a été confiné sur la Côte d'Azur. Il est revenu à Turin, contrairement à ce qui a été dit, parce qu'il y a une fixette aussi un peu négative sur Rabiot, qu'il avait fait la grève, etc. Bon, il est revenu dans les temps. Il doit être quand même isolé 14 jours en Italie.
La grève quand il y a pas, quand le travail est pas effectif.
Avant d'être.
Drôle de terme, quand même.
Mais la Juve.
Il est revenu dans les temps, mais plus tard que les autres joueurs étrangers.
C'est un joueur qui hystérise comme ça, comme Ben Arfa, comme Rabiot.
Au-delà de ça, la Juve veut s'en séparer. La Juve veut s'en séparer.
Non, attendez, veut échanger. S'en séparer.
Ah,
la Juve a besoin d'argent. La Juve, c'est pas la situation de l'OM, mais c'est quand même pas terrible. La Juve, c'est 90 millions de trous sur les 6 derniers mois. Donc ils ont des problèmes de sous qui se sont pas arrangés avec la crise qu'on connaît. Comme
mais surtout pas avec le salaire de Rabiot qui touche 7,5 millions d'euros par an.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pragmatiques. Ils ont versé une très belle prime à la signature, mais c'est un joueur dont ils ont réussi à obtenir les services sans montant d'indemnité de transfert. Donc si une saison plus tard, ils sont en capacité de le vendre 30 ou 35 millions d'euros, comme c'est à peu près visiblement ce qu'il vaut aujourd'hui, eh ben, c'est une bonne opération financière. Et comme effectivement, il a eu un début qui a été assez long à se mettre en place, même si on peut quand même rappeler...
C'est pas une saison flamboyante.
Oui, mais c'est normal, il n'avait pas joué depuis 6 mois, oui. Il a fait une réathlétisation de dingue. Et sur les 2 derniers mois, il était titulaire. Et effectivement, il n'a pas très bien joué contre Lyon, mais il n'était pas le seul. Et ça a été plutôt une dynamique qui était positive. Donc ils le vendent maintenant, ils font plutôt une bonne opération.
Est-ce qu'il va vouloir partir aussi, parce que à ce tarif-là par an, jusqu'en 2024,
moi je peux vous dire que pour avoir 2-3 infos dans l'entourage, c'était pas son souhait de partir, c'est pas son souhait, sauf que si on veut plus de lui, évidemment qu'il cherchera ailleurs.
Mais s'il veut partir, est-ce que la bonne solution c'est de se mettre, non pas à la faute parce qu'effectivement, techniquement, il est pas arrivé en retard sur les convocations du club, mais de se faire remarquer une fois de plus, j'ai envie de dire négativement, parce que voilà, on a parlé de lui. C'est juste ça, moi, qui m'embête dans l'histoire. Je me dis, bon, est-ce que ça serait pas intelligent de se dire, bon, bah, reprends l'entraînement comme tout le monde,
c'est
je travaille.
C'est la Stampa qui s'est trompée quand même. Hein. Elle parle de la Stampa, qui est un grand journal italien, qui parle de grève. Encore une fois, comme le dit Philippe, il n'y a pas de grève puisqu'il n'y a pas de confinement. Donc, à la limite, il est peut-être un peu en retard. Il n'y a pas de grève.
Est-ce que tu vois, c'est toujours lui qui arrive en retard finalement.
Est-ce qu'on a regardé tous les championnats de tout le monde?
Justement, quand tu es dans cette situation, est-ce que c'est une bonne idée de te faire remarquer, j'ai envie de dire, une fois de plus?
Remarquer, il est arrivé 3 jours après les autres, non?
Ouais, mais Cristiano Ronaldo, il n'est pas arrivé 3 jours après les autres.
Oui. Baptiste Durieux, les auditeurs d'RTL pensent une opinion sur Rabiot à la Juve.
Absolument, et on va même terminer sur une note positive, à ma plus grande surprise. Dimitri, tient un ultra du PSG qui nous dit, parmi les ultras, pas tous mais la plupart les ultras du PSG, si on doit retenir les joueurs qui nous ont marqués en termes de sympathie, de générosité en dehors du terrain, tout le monde vous dira Pastore et Rabiot, je vous le garantis. Et puis Jason aussi, autre supporter du Paris Saint-Germain. Je me suis rendu à Turin grâce à qui ? Grâce à Rabiot. Il m'a invité au match, m'a offert un maillot dédicacé. C'est factuel. Voilà,
je préfère que Rabiot, plutôt que Pastore, revienne comme au PSG. Hein. Pastore, il est toujours sur le banc ou blessé.
Moi, je pense que, la Juve, même malgré ses problèmes financiers, comme tous les clubs d'ailleurs, c'est pas que la Juve qui aura des trous dans ses comptes par rapport aux deux mois écoulés.
Pas dans ses proportions.
Oui, sauf que déjà, ils ont négocié 4 mois de salaire en moins avec leurs joueurs et ça a fait monter l'action. Donc, ils ont quand même géré ça quand même de manière correcte.
2 mois et demi, parce que le reste sera reversé.
Non, mais éventuellement jusqu'à 4 mois. Mais je pense que la Juve maîtrise sa com sur Rabiot. C'est-à-dire que, comme le dit Philippe, si c'est une vente, ils vont prendre 35-40 millions, tu enlèves les 10 à la signature et 7 millions de salaire sur un an, ils vont faire entre guillemets 50% de bénéf. Donc ils vont faire entre 20 et 25 millions de bénéf. Et puis s'ils restent, quelque part, il y a aussi un côté, ici, t'es pas l'enfant chéri, quoi. Donc tu te remets au boulot et tu vas nous retrouver la dynamique que t'avais avant le match contre Lyon qui était mauvais. Mais Bentancourt a été encore plus mauvais que lui, pour le coup, au milieu de terrain. Donc je pense que la Juve maîtrise sa com sur Rabiot. Soit tu pars et on prend de l'argent, soit tu restes et sportivement, tu te bouges, quoi.
Et tu te soulages d'un gros salaire, parce qu'il a un très gros salaire.
Il y a un intérêt à partir à Everton, voir Carlo Ancelotti qu'il a lancé en 2012. Non, c'est...
Bah, Everton, aujourd'hui, c'est pas Liverpool quand même. Donc ce serait pas une promotion que de passer de la Juve à Everton.
Faut attendre le nouveau stade, mais il est pas encore sorti.
C'est vrai que sa relation avec Carlo Ancelotti, elle a toujours été bonne. Et je veux dire,
il vaut mieux qu'il aille à Barcelone ou des clubs comme ça.
Carlo Ancelotti, il peut sauter d'Everton 6 mois
pour se retrouver sur le banc.
David Ayello.
Non, j'ai dit si c'est pour jouer Everton et être au cœur d'un projet et être un titulaire indiscutable. Oui, mais si c'est pour partir au Barça et être légué à nouveau sur le banc, il ne faut pas tellement l'intérêt.
Après, si vous faites 30 à 40 matchs par saison, c'est je ne sais pas ce que ça veut dire en fait titulaire.
Non, mais
avec Matuidi,
c'est juste que là.
Mais il a tout intérêt à rester.
Il a bénéficié de certaines circonstances.
Si on fait 40 matchs par saison, 30 ou 40,
ça n'a pas été son cas.
Après, il ne faut pas que ça devienne la caricature du joueur qui commence à partir tous les ans dès que ça bloque un peu pour une raison ou une autre.
Parce qu'après l'étiquette,
je pense qu'il a tout intérêt, sauf si vraiment il y a accord de
7 ans de contrat professionnel au PSG quand même. Oui. Je voudrais savoir combien il y a de joueurs qui ont fait 7 saisons de suite.
Thiago Silva, malheureusement.
Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'il a tout intérêt à rester un peu à la Juve. C'est pas un échec son passage à la Juve. Après un an sans jouer, franchement.
Oui, mais si le club cherche à s'en séparer, c'est.
Non,
c'est,
mais le club est en train de voir s'il n'y a pas une opportunité de se faire 40 ou 50 millions, il tâte le marché.
On a envie de voir quand même au moins encore une saison.
Parce qu'il a peut-être juste intérêt, lui, à communiquer sur sa position, sur ce qu'il souhaite faire et justement redorer un petit peu son image. Pourquoi pas sur RTL d'ailleurs.
Merci, messieurs. Merci à Baptiste Durieux qui a relayé les propos des auditeurs sur les réseaux sociaux. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous. Merci à David Ayello, Dominique Sévran du Parisien aujourd'hui en France.
Vous avez Canal qui m'ont appelé pendant la pause pub là. Ils vous donnent rendez-vous.
Ils me cherchent, mais ils ont pris mon numéro. Et puis Philippe Sansfourche d'RTL et Eric Silvestro. À samedi prochain. Très bonne soirée, très bon week-end. Bonsoir.